Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé par Daniel Amiche, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 21 février 2001 de 18 à 21h, en différé jeudi 22 février, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Ami du trône et de l'hôtel, bonsoir. Bonsoir, ma chère Victoria.
Bonsoir, mon cher Daniel.
Oh, quelle jolie voix, quelle voix méliflue vous avez tous les mercredis.
Il me semble que vous êtes bien agité ce soir.
Non, on n'est pas agité, mais bon, comme c'est un peu une émission que nous avons dû improviser, puisque bon, la santé de notre ami Serge, bon, va mieux, ça va mieux.
Mais
bon.
Il profite un peu de ses vacances, il
peut-être,
a raison.
Peut-être qu'il tire un peu à la ligne, je dois dire. Peut-être qu'il tire un peu à la ligne. Enfin, nous allons essayer, comme ce soir, d'intéresser nos auditeurs pendant 3 heures. Et j'ai le plaisir d'avoir autour de ce micro tous nos invités de la soirée. Pour la première partie, nous recevons d'abord Maître Bernard Méry, qui est avocat écrivain, qui a fait deux ouvrages qui semblent fort intéressants, puisqu'il traite des questions du lobby autour de la justice. Alors on va en dire un peu plus dans quelques instants, mais il a fait un ouvrage qui s'appelle « Justice, franc-maçonnerie en petit et corruption en gros », publié aux éditions Spot, et puis « Les nouveaux parrains », qui est un ouvrage qui est paru l'année dernière, enfin 99, hein, c'est ça, bon, qui est paru chez Liberté d'expression. Et puis nous recevons également Michel Blanzac, que connaissent bien nos auditeurs.
Bonsoir.
Bonsoir Michel. Alors ce soir vous venez comme journaliste, mais surtout pour converser avec Maurice Liverneau.
Oui.
Qui est un des membres fondateurs de la revue Balkan Info.
Tout à fait, exact. Oui.
Et qui est un organe d'information sur la situation dans les Balkans, sur la Serbie,
oui,
voilà.
De contre des informations.
Voilà, c'est une espèce un petit instrument fort utile et fort solide de lutte contre la désinformation, oui. Parce qu'il faut dire que là.
Qui tient bien depuis plus de 5 ans.
Maurice Liverneau, oui.
Puisque nous avons récemment fêté à la mairie du 9e chez notre ami encore maire de l'arrondissement, Gabriel Gasperet, le 50e numéro.
Il y a eu une chance pour qu'il ne soit pas réélu, Gabriel Gasperet.
Ah, il ne se représente pas.
Il ne se représente pas. Il est sûr de ne pas être élu. Alors, qui est-ce qui se présente à sa place? Alors, vous savez tout, messieurs.
Disons qu'il y a d'autres candidats, comme un peu partout.
Alors, il y a une droite, comme dirait notre avis Marie-Adeline, qui est aussi présent ici dans le studio, qui va pouvoir intervenir, enfin, jusqu'à la fin de l'émission. C'est une droite un petit peu... Enfin, c'est à Chandruine, quoi, la droite actuellement, hein. C'est ça, donc on essaye.
Oui, non, je suis pas venu pour parler de cela.
Mais... Non, bien sûr, mais on peut en parler quand même.
Oui, bien sûr.
On peut visiter.
Faire des photos.
Non, nous regrettons beaucoup que Monsieur Gabriel Gasperet, ancien ministre, quitte la mairie, mais enfin, il a aussi l'âge de cesser toutes ses activités. Mais enfin, bon, c'est un homme de très grande qualité, très courageux, que je connais depuis plusieurs années et qui vraiment pour les problèmes yougoslaves, pour la dislocation de la Yougoslavie, fait tout ce qu'il pouvait faire pour que la vérité soit faite. Et c'est grâce à lui que nous avons pu organiser plusieurs conférences, et notamment lors de l'agression de la Serbie par l'OTAN, dès le lendemain ou le surlendemain de l'agression, nous avons organisé une grande réunion et il était présent et il nous a toujours apporté son soutien. Voilà.
Bien, bah écoutez, heureusement qu'il ne se présente pas aux élections, parce que sans quoi, ce serait décompté sur son temps de propagande. Alors, je vous remercie beaucoup, Maurice Liverneau, de l'amitié que vous portez à Gabriel Casperet. Alors, également, donc, Yves-Marie Adeline, je l'ai dit, est écrivain, journaliste, l'auteur de La droite, on n'arrive jamais, le directeur de la rédaction de Fidélis, l'éditorialiste de Légitimiste. Et puis, alors, en même temps, donc, c'est le président, enfin, la tête de liste, le porte-parole, je sais pas comment il faut vous appeler. D'un grand mouvement dont on va parler pendant toute la deuxième partie de l'émission, qui s'appelle l'Alliance Royale, hein, puisque vous avez décidé que il serait peut-être bien que on... Bah, c'est bien, enfin, les dégustateurs de galettes du 21 janvier, c'est très très bien, enfin, du 21 janvier plutôt du 7 ou 8 janvier, mais qu'il y avait un moment quand même, il fallait peut-être un petit peu passer une vitesse supérieure, qu'aujourd'hui, la fenêtre de tir semble relativement ouverte, puisque vous avez fait l'analyse suivante qui me semble très juste, c'est que la gauche vit son âge d'or, absolument... incontestable et hégémonique, et que la droite n'est plus qu'un champ de ruines. Voilà, donc c'est peut-être le moment pour les royalistes de parler un petit peu de ce que c'est que l'institution royale.
De faire entendre leur voix, de faire connaître leur idéal. Oui.
Voilà. Alors nous avons un autre royaliste ici, hein, puisque j'ai tout à l'heure mis du trône et de l'hôtel bonsoir, et je le redis encore une fois, parce que ça a plu beaucoup. Voilà, j'ai commencé ça la semaine dernière, et alors il y a plusieurs personnes qui m'ont dit à la sortie d'un office que c'était très bien, que c'était très drôle. Alors quand je dis l'hôtel, évidemment, c'est pas celui du Calvados ou de l'Abyssinie réunie. Hein, on est d'accord, il s'agit vraiment de l'hôtel, AUTEL. Alors donc je salue la présence dans le studio de Hugues de Soicourt.
Bonsoir Régnienne.
Voilà, qui est lui le jeune et sémillant, directeur de la rédaction. Sémillant, je peux le dire, parce que la semaine dernière...
Vous pouvez maintenant qu'on m'a expliqué ce que ça voulait dire.
Voilà. Il n'y a qu'une ambiguïté, n'ayez pas peur.
Vous, connaissant votre perversité naturelle...
Non, absolument pas. Je ne suis pas pervers, mais j'ai un grand sens de la langue et des nuances. Bon. Alors voilà, sémillant et jeune directeur de la rédaction de l'hebdomadaire légitimiste, seul hebdomadaire. Oui, il est français, et hélas.
Hélas, je précise le hélas, puisque encore ce matin, j'avais une lettre qui me disait... Enfin, une personne qui me demandait... Pourquoi j'osais dire qu'on était le seul hebdomadaire royaliste, je le dis. Parce que c'est le
seul.
Malheureusement, c'est la réalité.
Voilà, en France, en tous les cas.
J'espère qu'il y a des hebdomadaires royalistes.
Et nous souhaiterions.
Patagonie orientale, mais en France, on est les seuls.
Nous souhaiterions qu'il y ait plusieurs hebdomadaires, plusieurs quotidiens royalistes. Enfin, je veux dire, moi, c'est le débat. C'est comme ça que j'aime le débat, vous voyez.
Oui, c'est ça.
Entre gens qui pensent à peu près la même chose.
Exactement. Voilà. Nous sommes tout à fait favorables au débat de l'Institut du marxisme-léninisme.
Voilà.
Mais les débats de l'Institut du légitimisme pravdaïen, serait souhaitable.
Parce que c'est fatigant quand les gens pensent pas la même chose au fond, c'est vrai.
Oui, on est obligé de les convaincre en fait.
Voilà, c'est très fatigant, on perd du temps. Pendant ce temps-là, on peut pas travailler à autre chose. Alors voilà, donc vous pourrez intervenir, messieurs, quand vous le désirez. Alors, je voulais d'abord m'entretenir avec maître Bernard Méry, qui est avocat au barreau de Paris, c'est ça, je me trompe
exact.
Pas,
hein,
et qui est aussi écrivain et qui s'est signalé à l'attention des lecteurs et qui se signale ce soir à l'attention des auditeurs d'Air de Courtoisie par deux ouvrages qui sont des ouvrages un peu complémentaires l'un de l'autre.
C'est ça.
Hein. Le premier s'appelle « Justice, franc-maçonnerie, corruption ».
Voilà.
Publié aux éditions Spot. On aura tout à l'heure, si vous voulez bien mettre toutes les adresses pour que les gens puissent se procurer facilement les ouvrages. Et puis, tout récemment, il y a à peu près moins d'un an, un ouvrage s'appelle Les Nouveaux Parrains. Alors, on comprend que, d'après les titres de ces deux ouvrages, il s'agit quand même d'un aspect très particulier du problème.
Ben oui, tout a commencé, j'allais dire, en 98. Vous savez, c'était l'époque où il y avait deux députés, Colcombe et Montebourg, qui ont un peu attaqué directement les tribunaux de commerce. Et moi qui suis à l'intérieur du système, si je puis dire, je me dis le combat était complètement erroné. En fait, on ne peut pas attaquer des tribunaux de commerce. C'est vrai que la corruption y règne en fait et librement, mais on ne peut pas les attaquer comme cela dans la mesure où tous les tribunaux de commerce sont contrôlés par les juges du siège, c'est-à-dire ceux d'en face, du moins à Paris, c'est-à-dire par les magistrats. Et les magistrats du siège, les magistrats professionnels, et on peut toujours se dire à quoi ça sert de taper sur les pauvres consulaires, même véreux, à quoi ça sert si en fait ceux qui contrôlent ne font qu'entériner ce qu'ont dit les premiers. Alors on en était là en 98, et puis je me suis aperçu, parce que moi je suis avocat, disons, du terrain, je me suis aperçu, et j'ai déjà 30 ans de barreau, donc j'ai eu le temps déjà de prendre pas mal de coups, mais à un certain moment, les coups étaient un peu forts, et je me suis mis à dire, attendez, on n'est pas tout seul, la France, dans le monde, il y a également également l'Angleterre, et notamment à la suite, et c'est pour ça que mon premier livre, Justice, franc-maçonnerie, corruption, vous avez remarqué en effet que j'ai mis franc-maçonnerie en petit, parce que c'est une des explications d'un réseau. Nous sommes en plein réseau. Voilà. Nous sommes dans un gouvernement du réseau, et nous sommes en justice totalement dans les réseaux.
On peut parler peut-être de, enfin, réseau, c'est une chose, c'est un mot qui est relativement neutre, donc, mais par contre, on peut parler de lobby, ou de groupe de pression, ou de...
Oui, alors, réseau, en effet, là, c'est pour cela que moi, je mets franc-maçonnerie comme étant un des réseaux, parce que il y a d'autres réseaux. Vous avez par exemple des réseaux. Bon, je vais faire frémir. Attention, je vois que ça va frémir. On va faire frémir les auditeurs, enfin du moins des certaines personnes, parce que il y a le réseau de la pédophilie. Vous avez des juges pédophiles, on cache ça. Vous avez des avocats actuellement qui ont été radiés parce qu'ils ont osé dire qu'il y avait des juges pédophiles alors qu'on a les preuves. Vous avez des juges, bon. Tout le monde peut être homosexuel, ça ne gêne personne. Mais à partir du moment où vous retrouvez, par exemple, dans une chambre à Paris, et la chambre de la presse, alors je ne vais pas la désigner parce qu'il n'y en a qu'une, où vous voyez...
Attendez, 15 et 2, c'est la 17, non, c'est 17, non?
Non, la 17, c'est le tribunal de grande instance.
Ah bon, d'accord,
mais
alors
vous avez,
je ne sais plus laquelle.
Vous avez derrière, vous avez bon, une autre chambre, où vous avez, dont je parle d'ailleurs dans le premier livre, bah, écoutez, le premier président, un des présidents, et puis surtout, un des premiers substituts, 18 ans qu'il a une chambre, attendez, il ne bouge pas, on se demande pourquoi, qu'il ne bouge pas en étant substitut. Bon, enfin... On s'évade un petit peu. Alors, vous m'avez dit réseau. Ben, oui, c'est-à-dire que...
Non, moi, je vous ai dit lobby.
Lobby. Alors, moi, je trouve que lobby, c'est peut-être... c'est un autre problème qui est encore plus grave que j'essaye maintenant de dénoncer aussi. C'est vrai qu'il y a le lobby, mais ça n'a rien à voir avec les réseaux. Le lobby, par exemple, vous avez un lobby des assurances. On remarque, par exemple, que la compagnie AXA, sinon, non, on peut tout dire, ici, c'est Radio Libre.
Ah non, mais de toute façon, il y a des lobbies absolument pour tout.
Voilà, alors vous avez, non, je vous donne un exemple.
C'est pas un mot, c'est un mot, ça fait partie de la réalité politique française et surtout de la réalité politique européenne maintenant, parce que tous les gros lobbies, que ce soit les lobbies des fabricants de gravier ou des pinardiers ou n'importe quoi, ils sont tous à Bruxelles, ils ont quasiment des ambassades, ils font pression, enfin, ils font pression comme on peut l'imaginer, en fin de compte, ce sont des pressions très agréables, que moi j'aimerais bien aussi de pression. Comme ça, vous voyez, avec des enveloppes là toutes les semaines. Non, on n'a pas pensé comme ça, on n'a pas. Eh bien, c'est quoi ? C'est des lobbies, c'est des lobbies. Parce que le lobby, le réseau, c'est plutôt un groupe d'intérêt pour protéger les camarades. Pour
alors,
protéger
ça
les camarades.
Existe.
Le lobby, c'est différent. C'est à la fois pour protéger les camarades, mais c'est aussi pour promouvoir quelque chose de nouveau, une innovation dans le droit.
Vous dites réseau ou lobby ?
Lobby.
Ah d'accord. Écoutez, moi je distingue peut-être un peu plus terre à terre. C'est vrai, moi je dis réseau, ça veut dire que vous avez actuellement en France, à Paris, mais ailleurs, parce que j'attaque un petit peu ailleurs, vous avez actuellement des réseaux, c'est-à-dire vous êtes dans le non-droit le plus pur, et la meilleure façon de reconnaître ce réseau, c'est que dans certains cas, vous n'aurez jamais droit à la justice et vous n'aurez pas droit à la justice, mais avec une violation flagrante, avec un mépris total du droit, un je m'en foutisme total des juges qui vous dites je m'en fous. Et je vous donne un exemple. J'ai un exemple présent au tribunal de grande instance de Nanterre. Vous avez un juge qui refuse d'instruire, on se demande pourquoi d'ailleurs, dans une affaire pénale. Elle rend une ordonnance de non-lieu car elle ne veut pas instruire. Moi, je sais pourquoi elle ne veut pas instruire. Parce que vous avez une des parties qui a fait en sorte qu'on n'instruise pas alors qu'elle est poursuivie pour escroquerie. Vous allez devant la chambre d'accusation de Versailles. La chambre d'accusation de Versailles constate que le juge n'a effectué aucun élément d'instruction et ordonne de faire une instruction. Aussitôt, vous avez un autre juge, un ami, pour pas dire un frère, du premier juge qui aussitôt se saisit de l'ordonnance, refuse, conteste ce qu'a pu dire a le pouvoir, et qu'imaginez, un juge d'instruction a le pouvoir de contester ce qu'a dit des juges supérieurs de la cour d'appel en disant que ce qu'ils ont dit est totalement stupide et qu'il refuse systématiquement d'instruire. Je l'assigne bien entendu en responsabilité. Aussitôt vous avez un juge, un avocat, dont je parle largement dans ce premier livre, qui est un 33e degré, qui, comme par hasard, vient demander la tête non seulement de l'avocat qui a eu l'audace d'attaquer un juge, et qui en même temps veut évidemment la peau de la partie qui se défend. et qui respecte, qui n'a, alors vous avez un juge qui n'a absolument pas respecté le droit. Mais vous avez des codes, vous savez, vous avez quand vous ouvrez un code, vous.
Il y a 17 codes, je crois, différents.
Oui, mais là, ça, vous êtes dans le code de procédure pénale. Vous savez que le code de procédure pénale, c'est quelque chose qui s'applique systématiquement.
Non, je veux dire, c'est simplement une petite insiste pour dire que quand on dit, vous savez, la fameuse formule qu'on apprenait quand on était à l'école primaire, nul est censé ignorer la loi, c'est un véritable. C'est du pipeau.
J'allais dire, ça, c'est pour foutre du monde.
Non, mais c'est du pipeau, parce qu'on ne sait même pas le nombre de lois. Personne ne sait le nombre de lois qui sont en vigueur.
Même les avocats.
Je crois qu'il y a 17 codes différents entre le code des impôts, le code de la sécurité sociale, le code de machin, le code de truc, du Montalivet, c'est hallucinant quand même.
Alors, c'est hallucinant en effet, mais bon, lorsqu'on est un peu plus ou moins spécialisé, d'ailleurs il y a des avocats spécialisés dans certaines matières, car on ne peut pas être universel. Moi, disons que je connais bien le code pénal, et quand un code a un juge, j'en connais au moins autant qu'un juge du pénal, si ce n'est pas plus, souvent plus, parce qu'eux travaillent très peu, ou alors ils travaillent vite lorsqu'on leur demande d'aller vite, ils travaillent peu lorsqu'on leur demande de travailler plus. Alors, vous avez par exemple une chose, vous avez un juge qui saisit du dossier, le deuxième, il n'avertit même pas la partie civile. Ensuite, donc il n'avertit pas alors qu'il doit avertir. Ensuite, il clôt son instruction sans avertir toujours la partie civile. Et puis, vous allez le voir, il dit « moi, j'en ai rien à faire ». Voilà. Vous êtes dans le réseau le plus pur. Or, vous êtes dans le réseau du tribunal de grande instance de Nanterre. Pourquoi réseau encore ? Parce que le tribunal, pour me condamner, moi, avocat, qui avait eu l'audace de dire qu'un bâtonnier de Paris avait été maçon, alors on dit « la maçonnerie », ce tribunal a dit « être maçon, dire qu'on est maçon, ce n'est pas diffamatoire ». Mais, étant donné que la franc-maçonnerie est reconnue comme étant un réseau chargé de passer entre les droits pour obtenir des avantages, le fait de dire qu'un avocat serait maçon, franc-maçon,
c'est sous-entendre
ferait que douter à ses clients qu'il ne serait pas indépendant alors qu'il a prêté serment d'être indépendant. Grosse blague, bien entendu. Mmh. Mais enfin, on a prêté serment d'être indépendant. Et donc, on condamne un avocat à 50 000 francs. Alors, tout ça pour vous dire que...
Vous avez été condamné à 50 000
francs? Ah oui, 50 000 francs.
Mais alors, pourquoi le juge Montgolfier a été condamné à rien du tout?
Écoutez, alors, le juge Montgolfier, mais ça, on peut en parler, parce que le juge Montgolfier...
Bah, parlons-en, là, on a
J'aime beaucoup le juge Montgolfier parce que j'allais dire que je me sens moins seul depuis qu'il est là.
Qui s'est pas gêné quand même, voilà, pour dire alors, que d'abord c'était à Nice, il est à Nice, non c'est
alors,
ça,
voilà, à Nice. Alors c'est quelqu'un qui est à Nice, qui vous savez qui est venu de Valenciennes et qui s'est fait connaître avec l'affaire Tapie. Et je dois dire que c'est un homme de grande qualité. Lorsque j'ai sorti mes livres,
un accrocheur, en tout cas,
il a tout de suite voulu me voir. Bon, il faut être clair, c'est un ancien franc-maçon. Défroqué, c'est-à-dire qu'il a...
Repenti. Enfin, détablirisé.
Voilà, il est détablisé, mais pour la bonne cause. C'est-à-dire que, comme je le répète toujours, il ne faut pas taper sur tous les francs-maçons. Vous avez des gens qui croient en ça. Pourquoi pas? À condition qu'ils ne viennent pas perturber.
Mmh. Bon, moi... Alors, moi, j'irai. Ouais. Alors, si vous permettez, parce que là, sur cette question-là, comment on va aborder cette question-là aussi, qui est une question qui est fort intéressante. Ouais. Alors, j'irai, effectivement, il ne faut pas taper de manière inconsidérée sur tout le monde. Hein.
Voilà.
Alors, il y a ceux qui rentrent en franc-maçonnerie, mus par un espèce de grand idéal ésotérico, machin truc, bon, c'est 0,1% de la population maçonne. Bien. Les autres, 99,99%, ils rentrent parce qu'ils se disent, en rentrant là-dedans, je vais avoir des tas de copains, je vais me faire sauter mes amendes, je vais payer moins d'impôts, je vais faire des relations professionnelles. Bien. Ça, c'est le niveau médiocre, subalterne, enfin, des gens qui mériteraient d'être cloués au pilon. Parce que faire des choses comme ça quand on est citoyen, c'est une honte. Bon. Mais il y a l'autre franc-maçonnerie, hein, celle qui est rentrée dans les arcanes de la franc-maçonnerie. Alors on dit toujours 33e degré, comme s'il n'y avait rien derrière le 33e degré. Tu parles, il y a beaucoup de choses derrière le 33e degré. Hein. 33e degré, c'est la clé qui vous ouvre la porte de la grande salle qui est derrière.
Et, bon. Oui.
Et là, on est vraiment, enfin moi je ne veux pas rentrer là, il y a des gens qui sont à table, donc il ne faut pas dire des choses sales, mais on rentre vraiment dans des choses qui sont absolument infectes, quoi, qui méritaient autrefois le bûcher. Je le dis très sincèrement, parce que moi je suis pas sanguinaire. Mais enfin, tout ça, pour moi, ça sent le fagot, quoi. Bon. Alors, puis les autres qui rentrent là pour se faire des petites relations, des machins, c'est des médiocres. Bon. Et c'est ça, en fin de compte, qui nous mine aujourd'hui aussi. C'est un des aspects de ce qui nous mine. C'est que ce régime dans lequel on vit, hein, qui est un régime entièrement façonné, modelé, pétri, cuit, ratacuit par la franc-maçonnerie, cette république, c'est un régime de médiocres, où les médiocres se tiennent la main, ils se font la grande chaîne de solidarité, ils se tiennent. Et c'est très très difficile d'essayer de rompre cette chaîne, parce qu'ils sont extrêmement puissants, mais qu'ils sont partout.
Alors moi, j'irai pas.
C'est un commentaire que je fais. Hein.
Oui, vos commentaires.
Ça n'engage que moi. Hein.
Voilà. Alors je voudrais pas. Moi, je n'ai pas les mêmes pourcentages que vous. Moi, je dirais, je serais peut-être meilleur parce que j'ai une tendance à excuser, étant donné que je suis avocat, donc j'aime bien plaider également des deux côtés. Et je dirais que je ferais plutôt 50-50. Voyez-vous, je serais plus. J'avais hier dans mon bureau.
Les gens qui rentrent au Grand Orient, c'est pas pour des questions, des considérations gnostiques, ésotériques et de recherche de la pierre philosophale, quand même. Faut quand même mettre.
Au début, si vous voulez. Bon, et puis c'est vrai. Bon, écoutez, moi je peux pas trop dire parce que j'ai vu également, et d'ailleurs je défends des francs-maçons qui eux. Alors évidemment, est-ce que ce sont des francs-maçons qui n'ont pas réussi à rentrer dans le réseau? J'en sais rien. Toujours est-il qu'il doit exister quelque part une bonté humaine quelque part, c'est ce que j'essaye de défendre. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a des gens. Alors pour revenir à Monsieur,
revenons à Gauffier, qui est un ancien
franc-maçon, qui justement, voyez-vous, lui il a eu le courage de dire assez, parce qu'il faut quand même que vous compreniez que la position qu'il prend, c'est un blocage de l'ascension d'avancement ad vitam aeternam. Il faut comprendre que maintenant, il ne peut plus aller ailleurs. On ne peut pas non plus le sortir, parce qu'il a réussi, lui, il s'est fort médiatisé, il a réussi à le détrôner maintenant, ça serait reconnaître que ça serait uniquement le règne de la franc-maçonnerie. C'est vrai que ça existe.
Mais c'est ça.
C'est ça. Mais
écoutez, mais prenez tous les corps de métier les uns après les autres, sauf les bouchers charcutiers pour lesquels j'ai un très grand respect. Bon, vous prenez tout, vous prenez tous les juges, la haute administration judiciaire dans ce pays, c'est des francs-macs. Vous prenez la haute administration policière, c'est des francs-macs. La haute administration militaire, c'est des francs-macs.
Oui.
La haute administration civile, c'est des francs-macs. C'est des francs-macs partout.
J'ajouterais quand même que
ce soir, les francs-macs, ils ont intérêt à se le serrer le tablier parce qu'on va leur passer un.
Les franches fripouilles assez régulièrement, les franches fripouilles ne sont pas francs-macs. Les francs-macs sont de franches fripouilles, mais les.
Tout, ah oui, alors, vous voulez dire que toutes les.
Je fais allusion au Fredo qui est cher à mon.
Toutes les franches fripouilles sont pas francs-macs, mais tous les francs-macs sont des franches fripouilles. C'est ça que vous voulez dire.
Mais en dehors du défoulement qu'on peut comprendre,
non, mais
parce qu'il y a un agacement très fort. Mais il faut d'abord que vous compreniez une chose, c'est que nous sommes 16 000 avocats à Paris. Vous n'avez un seul, et 25 ou 30 000 en France. Vous n'avez un seul qui ose défendre ce que je défends, oui. Un seul qui attaque cela. On avait en 98 dit que j'aurais 3 mois de vie. Maintenant, nous sommes en 2001, mais à chaque fois, il a fallu, si vous voulez, ça me pousse, en fait, ils m'ont rendu connu et glorieux à force de vouloir me tuer. Mais quand je dis tuer, c'est pas uniquement un euphémisme, c'est une volonté de mort, d'assassinat. Oui.
Peut-être un assassinat plus social, enfin, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, bon.
On a eu des pronoms,
ça existe encore.
On peut encore
instrumentaliser des voyous,
voilà,
pour régler son compte. On l'a vu, on le voit.
J'ai eu ça,
tous les accidents de la route où des personnalités sont impliquées me sont infiniment suspects. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle la mort civile, la mort civique.
La mort civile, ils l'ont essayé complètement. Il faut vous sachiez. Et alors là, je voudrais insister. Bon, le deuxième livre,
les nouveaux paras,
ont un avantage. Pourquoi de livres, parce que le premier avait à suivre. Ça les avait tués.
Oui, c'est marqué à suivre.
Le procureur Cordier, il faut dire son nom, parce que c'est Cordier qui est de la GNLF, admirateur d'Ismaël, du rite d'Ismaël.
Je ne sais pas ce que c'est que le
rite d'Ismaël.
J'ai une idée,
c'est l'ésotérisme total. Il faut aller voir qu'il tapait comme un fou lorsqu'il demandait ma condamnation très forte. J'ai 800 000 francs de condamnation, donc il faut que je vende des livres. et qu'il tapait comme un fou sur son truc en disant, sur son pupitre, en disant il faut l'arrêter de parler, il faut le faire taire, horreur, damnation, enfin c'était horrible. Pourquoi? Parce que je disais une seule chose, et ça je voudrais qu'on comprenne bien, le problème, à la limite qu'il soit maçon, on s'en moque, mais le problème c'est qu'il y a un double serment, et ça, ils ne veulent pas le reconnaître. Il y a le secret d'abord absolu, donc nous sommes dans un état où il y a une partie des Français qui baignent dans le secret et qui agissent dans le secret, premièrement. ce qui est complètement contraire à toutes nos lois et à toute l'idée européenne.
À tout bon sens.
À tout bon sens.
Si soi-disant, mais non, on fait pas de mal, nous les francs-maçons, on fait pas. Bah, qu'ils ouvrent leur loge, qu'on voit ce dont ils discutent, qu'on ait leur compte rendu. Alors là, on se dira, bah, très bien, donc c'est des gens très bien, qu'est-ce qu'ils discutent de la culture de l'Hortensia à 10h le soir au mois de septembre? Très bien, pas de problème, qu'ils continuent à discuter. Mais c'est pas vrai. Donc c'est des sociétés, c'est infecte des choses pareilles.
Et alors le deuxième.
C'est même contraire à tout l'esprit de la République que j'abomine par ailleurs.
Pour aller plus loin dans cette idée, c'est qu'ils prêtent serment. Vous avez donc un juge, un magistrat. Il va d'abord prêter serment à la République. Il prête serment à la République. Mais ensuite, il va prêter serment à la franc-maçonnerie.
Pléonasme.
Qui lui indique qu'il ne doit surtout pas et jamais lâcher un frère, contredire un frère. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, moi, un jour, j'ai passé la rampe? C'est parce que, arrivant devant cette fameuse 11e chambre que je ne voulais pas nommer...
Ça y est, c'est la 11e.
Ça allait, la 11e. Devant un Dominique Charvet, président, que je ne voulais pas nommer...
C'est nommé, entendu, ça vous regarde. Hein.
Et, attendez, il est nommé dans ce livre.
Moi, je m'élisolarise totalement de maître Bernard Méry. Parce que moi, les francs-maçons, je les aime. Je les aime.
Non, mais écoutez l'histoire. Je plaide en robe. Et à un moment donné, je sors un article du Figaro dans lequel il est marqué que le ministre de la Justice, avec Tony Blair, Stroh, qui était en Angleterre, disait qu'on ne pouvait plus, en Angleterre, cacher aux justiciables à qui appartenait le juge, parce que si le juge avait prêté serment à la franc-maçonnerie, eh bien, si on avait un adversaire franc-maçon, il est évident qu'on allait perdre notre dossier. D'ailleurs, moi, à chaque fois que j'avais un franc-maçon en face de moi, je perdais mon dossier. Alors, je dis à ce vénérable...
À chaque fois que vous plaidiez
oui,
contre un franc-maçon,
je perds.
Vous paumez.
Ah, on perd. Et alors, je attaque donc, je dis, vous voyez, un avocat qui vient de plaider, qui sort un article de journal, et qui dit, Monsieur le Président, pour rentrer dans l'idée commune dont nous parlons, discutons actuellement en France et dans l'Europe, puisqu'on est en Europe, est-il possible, selon vous, qu'un juge puisse juger un autre, qui est franc-maçon, puisse juger une partie franc-maçonne, alors qu'une ne l'est pas, tout en respectant son obligation d'impartialité et d'équité auquel nous renvoie la Convention européenne des droits de l'homme? Que n'avais-je pas dit? Vous avez ce fameux Dominique Charvet qui se lève comme un fou, qui dit, maître, vous avez outrepassé les droits de la parole d'un avocat en France. Je demande, et on voit ce Bartoli de bien nommé, qui est le fameux substitut qui reste pendant 18 années à cette fameuse chambre, qui avait son code ouvert à l'article 25 de la loi de la presse, et qui dit que toute personne qui attaque, tenez-vous bien, une religion, doit être condamné à 5 ans de prison et qui requiert contre un avocat en Europe 5 ans de prison. Alors, bien entendu...
C'est une religion, la franc-maçonnerie.
Et alors, voilà, selon M. Charvet, c'est une religion. Selon M. Bartoli, c'est une religion. Alain, parce qu'Alain est en tôle. Non, c'est François, excusez-moi. Parce que Alain, c'est celui qui a fait arrêter M. Montgolfier. Vous voyez qu'on y arrive à M. Montgolfier. Et alors, que croyez-vous qu'il arriva? Je dis... J'ai été menacé en tant qu'avocat, alors que j'ai la liberté de parole, l'immunité qui est prévue dans la loi. Un avocat, en principe, a une immunité judiciaire, quand il plaide. Eh bien, je me plains au premier président de la cour d'appel, M. Canivet, à l'époque.
Canivet.
Est, bien entendu, un grand maçon, mais je ne savais pas. Et qui, aussitôt, le résultat, c'est qu'il porte plainte auprès de la bâtonnière Madame de la Garandrie, dont je révèle qu'elle ne s'appelle pas Madame de la Garandrie, puisque c'est un titre qu'elle a acheté à un poivreau qui mourait, hélas, d'une cirrhose du foie.
Ça, c'est sous votre entière responsabilité, maître Bernard-Méry. Moi, je ne veux pas, je ne rentre pas là-dessus.
Les histoires
de beuverie, ça ne m'intéresse pas.
Alors, imaginez donc que le résultat, c'est que l'avocat qui avait parlé librement se retrouve confronté à une procédure judiciaire. Attendez, article 23, c'est-à-dire dont on demande immédiatement la radiation. Heureusement pour moi, c'est que j'avais toujours, je me baladais toujours avec 10-15 témoins, et qu'il a fallu donc que j'attaque tout le monde, et j'ai passé mon temps à attaquer tout le monde pour ne pas être attaqué. Alors, c'était la petite histoire. J'en reviens à ce fameux monsieur Montgolfier. Monsieur Montgolfier, donc, c'est un ancien maçon, mais qui était impur. Et quand vous discutez avec lui, d'ailleurs, c'est un royaliste, donc je pense que ça vous ferait plaisir.
Moi, j'ai rien contre les royalistes, non. Je suis très ouvert de ce côté-là.
Surtout quand Isabelle Montgolfier.
Oui, oui, c'était quelqu'un, et c'est quelqu'un qui a vraiment une très haute idée, qui parle très bien, et qui est très ouvert, et qui a fait un travail extraordinaire. Imaginez-vous quand même.
Il a fait un beau travail de juge d'instruction.
Attendez, d'abord, bon, on parlera peut-être de la scientologie, parce que c'est pas loin. Vous verrez que le deuxième du Grand Orient est quand même scientologue. Ah. Quand vous voyez que Mme Morakeni perd ses dossiers, qu'elle a oublié de faire des doubles.
Donc il a une double religion, lui, alors, celui-là. Il est à la fois franc-maçon et scientologue.
Et scientologue.
Une triple, en plus, il est républicain. Non, ça devient vraiment odieux.
C'est parce que vous avez la force du réseau. Quand vous savez que les trois quarts des juges sont du Grand Orient de France, vous comprenez très bien qu'il faut mieux être grand. Il faut
même. Bah, vaut mieux pas passer devant les tribunaux, surtout après ce que je viens de dire ce soir.
D'accord. Ceci dit, vous savez avec Mme Morakini, il perd ses dossiers, donc il n'y a plus de problème.
Non,
on ne parle plus de la scientologie, puisque le dossier a été perdu. Et puis, comme par hasard, on n'a pas fait de photocopie. Mais attendez, il y a un juge du syndicat de magistrature qui a dit, mais attends, c'est bizarre, vous êtes la seule à perdre vos dossiers de scientologie. Mais qui croyez-vous qu'il arriva ? La pauvre juge, elle est maintenant poursuivie en diffamation. Par qui ? Par le juge Valat. Le juge Valat qui lui-même me poursuit parce qu'il paraît que je suis fou. Donc, vous voyez que Bernard Méry, qui est actuellement devant vous, est un paranoïaque décompensé, à forme délirante, dont, bien entendu...
Ça, j'avais pensé tout de suite. Dès que vous êtes rentré dans le studio, j'ai pensé qu'un homme qui dit du mal des francs-maçons comme ça, c'est pas un homme normal. Parce que c'est vrai, enfin...
Et alors, attendez...
Non, il dit pas... À forme délirante. Il dit pas beaucoup de mal.
Mais vous,
non,
alors, vous lirez dans le livre, dans le journal que j'étais obligé pour
alors,
me
oui,
protéger
oui, ça, c'est bien,
la
ça,
liberté
oui.
d'expression, vous lirez
de ça, oui.
qu'un article est paru... signature.
Alors ça s'appelle
anglaise,
la liberté d'expression.
La liberté d'expression.
C'est en kiosque.
C'est en kiosque.
Ça coûte 20 francs. Le numéro 1 est paru.
Voilà. Et c'est distribué par NNPP. Vendu pas trop.
Mais dites donc, vous avez des sous pour faire ça.
Oui, bah on en parlera si vous voulez tout à l'heure. Mais comme c'est pas tout à fait le sujet.
Ça coûte 20 francs, c'est un bon. Moi, je suis jaloux quand j'ai des trucs comme ça. J'arrive pas à faire des journaux comme ça.
Mais on vous expliquera alors. Peut-être hors antenne alors. Alors, ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est que ce fameux juge Valat qui défend Mme Morakini, qui a perdu le dossier d'insortologie.
Juste, je vous interromps pour dire que, quitte à me faire engueuler par les auditeurs, parce qu'il paraît que je coupe tout le temps la parole, mais non, bah, c'est le débat, quoi. Il faut discuter entre nous, en vrai, c'est pas très intéressant.
Absolument.
Alors, il faut s'identifier. Donc, nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du PRL et de la francophonie, qui est la seule radio où on peut encore parler en termes peu amènes. De la franc-maçonnerie.
Et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité parce que.
C'est un plaisir pour moi.
Je fais encore une petite parenthèse. Voyez-vous, je suis allé mettre en correctionnel toute la cour d'appel de La Réunion. Quand je suis arrivé là-bas, je leur ai dit, écoutez, vous êtes franc-maçon, tout le monde le sait, regardez, vous êtes à tel temple, etc. Et tout le monde a dit, mais comment nous, francs-maçons, on ne sait pas. Alors, les journaux sont venus m'interviewer, la télévision est venue m'interviewer, je devais passer le soir, les journaux, il n'y a pas eu de journaux, la télévision, ça a été déprogrammé, et je suis reparti avec ma petite valise.
Ça peut arriver, c'est des incidents techniques.
Pour vous dire, voilà. Et c'est pour ça que je suis content.
Mais on peut poursuivre la délation ici.
Mais regardez bien où vous mettez les pieds, parce que vous pouvez risquer de glisser sur une peau de banane dans les rues. Regardez bien où vous mettez les pieds. Hein.
Alors, je voulais simplement...
Alors, attendez, on va
pour revenir là-dessus.
Non, attendez,
Valat,
pas mon
je voulais simplement...
Mais simplement, il faut donner aussi un
excusez-moi,
peu la parole aux éditeurs, parce que moi, je le monopolise beaucoup, vous un peu, mais c'est normal, c'est votre métier. Moi, c'est pas le mien. Et par contre, on a beaucoup de messages auditeurs, donc
d'accord,
beaucoup m'engueulent. Alors, on va passer sur ceux qui m'engueulent, parce que là, on n'est pas comme on est peu payé, je veux dire...
Pauvre,
allez-y, ma petite Victoria.
Pauvre monsieur Amiche, vous êtes mal. La franc-maçonnerie est une religion. Et vos propos tombent sous le coup des lois qui répriment l'appel à la haine pour des motifs, entre autres, religieux.
Peut-être, oui. C'est la religion.
Faites repentance illico.
Ouais, je maintiens que c'est la religion de Satan, c'est la religion du diable. C'est la religion du diable, donc c'est très bien qu'il y ait des affûts. Oui, c'est la religion du diable, à quoi ? 17e chambre, ça me plaît, est-elle à être condamnée pour avoir dénoncé la religion du diable. Alors franchement, ça me fait des années de purgatoire en moi. Moi, je ne cherche que ça, surtout qu'on arrive au carême. Allez-y, ma petite Victoria, continuez.
Et les auditeurs, ils ont droit un peu de parler, là.
Oui, Daniel. Par votre truchement méliflu.
Ah ben dis donc. La franc-maçonnerie est une secte et on comprend pourquoi elle refuse de légiférer sur les sectes. Elle est antidémocratique.
Ah oui.
Pour être... Attendez, je vous les lis tous, après vous commenterez. Hein. Pour être maçon, ce n'est pas gratuit. Il faut compter 10 briques.
Ouais, faut pas, ça dépend à quel niveau. Bah, faut mettre des sous, de toute façon.
Innocente.
Ça dépend à quel niveau.
Alors, attends, attention.
Innocente. C'est bien la justice du RSS que vous décrivez en ce moment.
Absolument.
Il y a moins de francs-maçons en URSS, hein. C'était pas mieux,
bon. Non, mais ils rétablissent l'internement. Justement, je voulais vous en parler tout à l'heure pour
Valade. On va dire un petit second. Là,
Monsieur Amiche, oui. Le Grasse, modérez vos propos. Oui. L'hypertension artérielle, ça n'existe pas que chez Serge de Beketch.
Oui.
J'en connais à Saint-Germain-en-Laye qui doivent sauter au plafond en vous écoutant.
C'est pas ça, Saint-Germain-en-Laye. Oh,
j'ai été franc-maçon pendant 10 ans au droit de l'humain. Je n'avais aucun motif d'intérêt sauf pour fuir la solitude et j'ai été entouré pendant ces 10 années. J'ai quitté parce que j'ai déménagé, mais j'y ai trouvé beaucoup de solidarité amicale.
Oui, liberté, égalité, fraternité, 3 points.
Pouvez-vous nous parler des francs-maçons dans les médias?
Oh bah alors là, tiens, oui, il peut le parler. Un truc très drôle à la fin de votre premier bouquin, là.
Il faut rappeler les malheurs de Maude Marin, avocat à Nanterre et qui a écrit Pitié pour les victimes.
Oui, c'est vrai.
Elle a
oui.
été radiée du barreau.
C'est vrai, malheureusement. Oui.
Tiens, je la connais pas.
Oui, elle vient souvent dans l'émission de Serge. C'est tout, ma petite Victoria?
Pour le moment, oui.
C'est tout, bah voilà. Donc, enfin, les auditeurs, on les voit qu'on a vraiment un auditorat extrêmement, très franc-maçon, quoi. Ça, c'est très agréable à entendre. Moi, ça console du reste. Oui, alors, mon cher maître.
Je voulais finir sur l'histoire Valade, parce que nous sommes dans un truc très grave, en effet. Le réseau, c'est ça. C'est-à-dire que, d'abord, le réseau, il a comme source le procureur de la République. C'est eux qui font la loi en France. Les autres ne font que dépendre des procureurs de la République. Parce que le procureur de la République tient son ordre directement de la chancellerie et de la politique. Vous savez qu'on nous a appris dans les universités qu'il y avait trois pouvoirs, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, c'est de la blague. Vous avez un pouvoir politique et exécutif et le pouvoir judiciaire est au centre des deux.
À la botte.
Voilà.
Et encore, on va raffiner ça d'ailleurs, si Adeline veut parler de ça.
Il est peut-être plus fort, plus près d'ailleurs du pouvoir exécutif que du pouvoir politique, bien qu'il y ait actuellement 176 francs-maçons à l'Assemblée, que le président est Forni est bien entendu un franc-maçon, et que le président Poncelet du Sénat est évidemment franc-maçon. Donc vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose, on pourra faire des signes de détresse, mais ils sont bien reçus. Alors, Valade, parce que j'en fais une fixation, Valade est celui qui s'est illustré dans vous vous rappelez, de cet incident des deux Airbus A320 qui s'étaient écrasés en Alsace, à Abschein et au Mont-Saint-Odile. Et à l'époque, vous aviez un brave Jacquet, Norbert Jacquet, qui était le président des pilotes de ligne, et qui disait, écoutez, excusez-moi, c'est pas la faute des deux pilotes, c'est la faute technique des avions. Et c'était en effet des fautes techniques qui ont d'ailleurs été réparées par la suite, et découvertes et réparées par la suite. Mais le pauvre criait trop fort, et il disait, les boîtes noires ont été falsifiées. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le procureur pêche, vous voyez, pêche en allemand, ça veut dire pas de bol, hein. Donc, le procureur pêche de Strasbourg, aussitôt, a dit, cet homme est fou, il faut l'enfermer, vite. Et qu'est-ce qui a été désigné? Ben, c'est notre brave juge Valade, Jean-Paul Valade, qui a été désigné. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désigné le fameux expert Bricou, qui, je dis Bricou, le fameux expert, parce que le fameux expert Bricou, c'est le même qui a été désigné pour moi, qui donne le même diagnostic, non pas parce qu'il m'a vu, mais par correspondance. Parce que je lui ai écrit une lettre en lui disant que, désolé, mais à l'heure où il me convoquait, je plaidais ailleurs. Donc j'étais un paranoïaque, etc. Mais, pour revenir à Norbert Jacquet, cet homme a été mis pendant 3 mois sous perfusion et dans la prison de Fresnes. Tenez-vous bien, le fameux expert Bricou a rendu une expertise mettant mot pour mot les mots que je vous dis tout à l'heure, paranoïa décompensée à forme délirante, dont on connaît le diagnostic complètement irréversible. 2 jours après qu'il rendait son rapport, que s'est-il passé? Eh bien, le laboratoire de Lausanne, spécialisé dans les boîtes noires, disait que les boîtes noires avaient été falsifiées, trafiquées. Et il aura fallu 9 experts pour dire que cet homme était parfaitement sain, pour que cet homme retrouve enfin la liberté. Donc le réseau, c'est quoi? Ce sont des gens, voyez-vous, qui sont là pour faire taire, pour qu'on, au service d'intérêts, car là c'était Airbus, il y avait des contrats signés avec la Chine. Eh bien nous sommes retournés maintenant, quand il n'y a plus de reproches à faire sur le plan du droit, eh bien maintenant nous rétablissons le dogme où c'est du goulag, les blouses blanches, la politique des couleurs. Alors, voilà ce que je voulais vous dire, et vous me parliez de la presse tout à l'heure.
Voilà, comme un auditeur nous demandait, mais alors parlez-nous les francs-maçons dans la presse. Bon, on peut en dire grand-chose, simplement je cite l'avant-dernier paragraphe, l'avant-dernier paragraphe, voilà. Des nouveaux parrains de Bernard Méry, donc publié
Liberté d'expression.
Liberté d'expression, on va donner l'adresse tout à l'heure. Hein, voilà, alors c'est un paragraphe, je le dis, parce que c'est rigolo, bon, c'est pas mal écrit en plus. Hein, les justiciables pourront alors se coucher, alors il faut avoir lu les 360 pages qui précèdent. Hein. Les justiciables pourront alors se coucher, non sans avoir une dernière fois assisté au spectacle quotidien d'une pantomime sur le thème de la liberté de l'esprit, à une pièce sur l'art de la feinte, jouée aux dernières lueurs du jour, en un édifiant spectacle articulé par les deux frères maçons que sont Serge Julie et Philippe Alexandre. Voilà. Bon, rideau. On peut pas rajouter grand chose.
Si on peut rajouter quand même, on peut rajouter que.
On peut passer parmi vous pour faire la quête, si vous voulez.
Non, on peut rajouter qu'il n'y a pas un journal national qui ne soit pas tenu par la franc-maçonnerie.
Je m'inscris en faux contre cette affirmation.
Une de soi court, défendez-vous, parce que là, on
a des titres.
Là, ça, c'est la 17e chambre, là. C'est pas la 11e, c'est la
17e chambre. Le Monde, Libération, vous avez Serge Julie, tout le monde le connaît.
Monsieur, nous nous honorons d'avoir un journal où il n'y a pas un seul franc-maçon.
Et vous vous apercevez par le Canard enchaîné. Quand vous savez que l'avocat du Canard enchaîné c'était autrefois Roland Dumas, Charrière, Bournazel, voyez par exemple que, tenez, une histoire très drôle, vous voyez actuellement qu'est-ce qui se passe, le procès Dumas, vous savez qu'il est maçon.
C'est pas possible.
non, mais vous savez qui a-t-il
Moi qui pensais qu'il était un honnête président de Cour constitutionnelle.
Qu'a-t-il comme avocat? Il a Fartois qui est un grand maçon. Et puis Sirvaine, qu'est-ce qu'il a? Il a Turcon. Turcon est un grand maçon. Alors, c'est justement celui qui s'attaquait à Madame Joly parce qu'on y avait pénétré chez lui. Et vous avez une méthode, d'abord, pour reconnaître. D'abord, on sort du droit. Puis deuxièmement, voyez qui est l'avocat. Et comme ça, vous saurez d'où qui appartient. Alors, par exemple, j'ai un petit dossier actuellement contre un magistrat dont je vous ai parlé tout à l'heure, Nanterre. Eh bien, qui arrive? Vous avez Dupeux qui était l'avocat de Vatier. Tout ça, ce sont deux grands frères de la GNLF. Et puis, vous les voyez, donc vous savez très bien que vous êtes en plein réseau. Vous êtes tombé dans... C'est-à-dire que maintenant, le secret est dévoilé dès qu'on connaît les techniques. Il suffit de savoir qui est maçon, et surtout parmi les avocats, et vous saurez tout de suite si vous êtes ou n'êtes pas dans le réseau. Voilà ce qu'on pourrait dire déjà sur ce point.
Alors c'est pas mal, donc je rappelle quand même les deux ouvrages, on va redonner la parole à nos auditeurs, donc de Bernard Méry, qui est avocat à la cour et auteur, enfin pour l'instant il va être de plus en plus auteur, parce que s'il continue comme ça, il va faire très longtemps avocat. Alors donc, le premier volume s'appelle, Bernard Méry.
Non, le premier c'est
Justice, franc-maçonnerie anti-corruption, on dirait un sandwich de SNCF, enfin, vous avez Justice et corruption en gros, puis au milieu vous avez étrange jambon et franc-maçonnerie. Bon, alors ça c'est publié aux éditions Spot.
Oui, mais c'est la même chose, sauf qu'on a changé parce qu'on trouvait très drôle que les tribunaux condamnent la liberté d'expression.
Voilà, c'est bien. Donc ils ont fait, alors il y a une autre maison d'édition qui s'appelle La Liberté d'expression. Alors c'est où La Liberté d'expression?
Alors ça se trouve 33 avenue des Champs-Élysées.
Donc 33 Champs-Élysées.
Voilà, 7508 bien entendu.
Alors 33 Champs-Élysées, c'est facile à retenir. 33 Champs-Élysées, Paris 8e.
Et puis vous avez un numéro de téléphone si vous voulez.
Allez-y,
qui est le 01 42 25 03 03.
Je dis ça parce qu'on va nous le redemander, donc je rappelle que c'est pour ceux qui n'ont pas bien le crayon, la mine,
42 25 03 03. Livre vous est livré le lendemain.
Voilà, le lendemain. Donc alors les nouveaux parents c'est 120 francs.
C'est 120 francs, oui.
Enfin, tant qu'il y a des francs.
Voilà.
Et alors le Justice franc-maçonnerie corruption qui est assez rigolo aussi,
francs,
qui est pas triste non plus à lire.
Ah, oui.
C'est 97 francs. Puis alors
c'est franco de port, hein, qui s'inquiète pas.
Très bien.
Qu'ils envoient leur chèque parce que on n'a pas beaucoup. On est un peu comme Radio Courtoisie.
Voilà.
On a une formulation. On est un petit. On travaille avec du bric et du broc, et donc on ne peut pas faire trop de. Donc il faut bien envoyer le chèque.
Alors envoyez le chèque avec la commande. Alors je rappelle que on trouve dans les kiosques un très beau magazine de 100 pages, tout en couleur, qui s'appelle La liberté d'expression, avec beaucoup de ces 20 francs. Alors en plus, ça vaut pas la peine de se gêner. Alors il y a un truc qui s'appelle les intouchables, et on voit une espèce d'étoile avec un jet dedans. On a l'impression que c'est un truc, ça doit parler des francs-maçons, je pense pas. Hein. Le pouvoir des femmes, très intéressant.
Moi je trouve que l'article le plus intéressant, manifestement, c'est le trafic des top modèles.
Ah ça, ça m'intéresse beaucoup, mais pour d'autres raisons, parce qu'il y a de belles images. Et alors, vous avez également, faut-il incarcérer les juges d'instruction? Voilà une question, quelle est bonne à poser. Ça s'appelle la liberté d'expression, 20 francs, 100 pages, tout en couleur. Vous gênez pas, quoi. Pour 20 francs, vous investissez 20 francs. Hein. C'est très intéressant. Alors donc, on va demander, Yves Ariadine, si vous parlez devant un micro, on vous entendra. Si vous parlez à 3 mètres, on vous entendra pas.
J'ai envie de poser la question qui fâche. D'où vient tout cet argent, maître?
Alors, ça ne fâche pas, mais... Je veux dire, ça me gêne de vous répondre.
C'est la septemoune ?
Non, ça vous gêne de répondre parce que devant ces gens qui nous harcèlent actuellement avec les RG, qui nous essayent de savoir d'où vient l'argent, c'est la question qu'on nous pose. Vous avez des gens qui rentrent par la fenêtre, qui veulent savoir qui est le signataire des fameux articles, faut-il incarcérer les juges d'instruction. Et donc, j'aurais préféré vous en parler, bien entendu, dans un petit comité.
Voilà, nous ne sommes pas les auxiliaires des renseignements généraux.
Actuellement, c'est la question que posent les renseignements généraux. Alors, est-ce que c'est nécessaire qu'on leur réponde tout de suite?
Mais vous ne m'en parlerez pas du tout. Non, mais j'ai pas envie d'être cuisiné, moi.
Mais Yves-Marie, à part cette question un peu obscène, mais qui est intéressante quand même, est-ce que vous avez d'autres remarques à faire sur ce que vient de dire
moi, ça m'inspire
Maître Bernard Méry? Ça vous inspire beaucoup, vous?
Ça m'inspire pour la revue Fidélis, parce que...
Vous allez peut-être pouvoir demander un article
à
Maître Méry.
Oui, parce qu'il y a une des rubriques, enfin la rubrique même, qui est un peu l'épine dorsale de la revue, qui s'appelle Aujourd'hui la monarchie, et qui essaie de répondre à la question de savoir à quoi pourrait ressembler une monarchie aujourd'hui, et si un roi était là, que faudrait-il faire dans différents domaines, allant de l'aménagement du territoire à la politique d'outre-mer, etc. Et il y a évidemment tout un volet à propos de la justice. Que faut-il faire pour améliorer la justice en France? Donc je suppose que vous pouvez répondre, faire quelques propositions.
On n'a pas parlé tout à l'heure de la franc-maçonnerie, j'allais dire. Mais ce que je voulais dire, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, au départ, au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie était considérée comme une super aristocratie. C'est-à-dire que c'était un moyen pour des nobles, surtout pour des officiers, d'avoir la vie sauve sur les champs de bataille. Alors, il suffisait en effet de faire le signe de détresse, qui est les mains en l'air en signe de triangle, mais comme les mains, vous savez, haut les mains, en fait, c'est un signe qu'on pourrait dire maçonnique, sauf qu'on rejoint les deux mains au-dessus, et sur le champ de bataille, ça avait la vie sauve, qui était important, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas de prisonniers. Et c'était également important, parce que c'était tout l'outre-mer, qui est d'ailleurs un héritage actuel. Vous savez que le ministre des dom-toms est obligatoirement un franc-maçon, parce que il faut vous souvenir, moi je suis allé à l'île Maurice où j'ai fait pas mal de j'ai fait des
avec Jacques Chirac.
Mais j'étais sans non, j'étais pas dans le même hôtel. J'étais invité par un parti
c'est
là-bas.
Dommage, j'étais bien.
Il était mieux que le mien parce que. Mais alors, il faut que vous sachiez que l'île Maurice, c'est un traité qui s'est fait entre deux francs-maçons, un français et un anglais. On va pas s'embêter, on va pas faire de sang. Mais vous savez que
la
Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose. Vous savez que en fait, c'est et ce qui se passe encore, c'est ça. Il faut que vous sachiez, parce que ça, peut-être, c'est un scoop, mais Talamoni, l'avocat, est un grand franc-maçon et s'était traité avec Guglielmi, qui était franc-maçon. Quand vous pensez qu'en France, on va céder une partie du territoire français et que les pourparlers sont engagés par un Guglielmi le grand maître de la grande loge du Grand Orient de France avec Talamoni. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et vous voyez que donc, finalement, ça existe. Alors, on pourrait discuter, bien entendu, tellement, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet.
Il y aurait énormément à dire. Alors, je voulais vous rebondir, mais alors j'ai oublié totalement ce que je voulais dire, mais enfin, c'est pas très grave, mais c'est pas grave. Alors, on va se tourner vers Victoria, qui veut peut-être donner quand même un peu la parole à nos auditeurs, et puis après, chacun d'entre nous peut encore faire un commentaire.
Attention, il y a pas mal de francs-maçons de la Grande Loge Nationale Française qui sont proches des idées nationales.
Bah, tant mieux
ne
pour eux.
Ne fantasmez pas trop.
Bah, moi, je fantasme absolument pas sur la franc-maçonnerie. Mais pas du tout, pas du tout. Oui, pas du tout.
Tes auditeurs qui sont...
On verra. Non, mais il y en a effectivement. Enfin, bon, c'est leur problème, encore une fois. Mais moi, qu'on
c'est
me demande
liberté,
pas...
C'est
moi...
la liberté d'expression.
Oui, enfin, bon, je constate qu'aujourd'hui, pour faire carrière, il faut être franc-maçon. Ah, ouais. Hein, mais qu'un catholique ou un prêtre un prêtre catholique n'a pas le droit de passer son agrégation. Alors, faut quand même pas se foutre du monde.
Non seulement ça, mais un prêtre catholique est radié de son agrégation.
Alors, faut quand même pas se foutre du monde. Hein. Il y a des limites à la plaisanterie.
De toute manière, je ne vois pas, nous ne professons pas d'idées nationales ici, Daniel.
Non, des idées royales.
Mais tout ce qui est, voilà. Tout ce qui est national est nôtre.
Tout ce qui est royal est nôtre. Tout ce qui est royal est nôtre. Voilà. Allez-y, ma petite Victorienne, vous laissez pas des
moi,
laissez
pas les harceler. Je dirais quand j'aurai un créneau, pas avant.
Allez-y.
Je n'ai pas de créneau. Allez, mon enfant, allez-y, je vous donne la parole. Allez-y, mon petit enfant.
Je cite ce propos d'un ancien franc-maçon qui est entré dans la franc-maçonnerie par idéal, mais qui est revenu de tout. Il me dit, j'y ai tout trouvé, sauf la fraternité.
Ben, c'est pas pour ça, là, c'est autre chose. Enfin,
ben, il faut d'abord, c'est intéressant ce mot fraternité, parce que tout le monde dit que c'est le Grand Orient de France qui l'a inventé. C'est pas vrai, puisqu'il a été inventé en 1848 et que c'est pas du tout. Ils ont récupéré, tout simplement. Il faut que vous sachiez quand même.
Un slogan révolutionnaire
et français. Oui, mais que la mort de Louis XVI, puisque c'est quand même.
L'assassinat
de Louis XVI, c'est quand même un grand franc-maçon qui l'a voté. Mm-hmm. C'était le grand maître qui était frère du roi, certes.
Mais pas le frère, cousin d'Orléans, Berger. Mais il y a des gens qui sont à table, il y a des mots qu'ils ne vont pas prononcer.
Ce que je déplore, c'est qu'eux disent être à l'origine de la liberté, fraternité, liberté, égalité, fraternité, alors qu'ils l'ont simplement récupéré. Et puis alors, je voulais une petite parenthèse.
Je voulais juste vous dire, mon cher maître, tant pis, au risque de me faire engueuler en disant qu'il y a deux choses qu'il ne faut jamais dire. Non, d'abord, il y a deux choses qu'il ne faut jamais dire. On ne parle pas des Orléans quand on est à table.
Ah bon?
Ça, j'allais. Et on ne déroge pas les domestiques quand ils déchaînent.
Une petite parenthèse intéressante. Je ne sais pas, je la juge en tout cas intéressante, mais il faut que vous sachiez quand même que sur les 43 présidents des États-Unis, vous n'en avez deux qui n'étaient pas francs-maçons.
C'est vrai.
Alors, vous en avez un qui a été tué tout de suite. c'est Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, qui a été tué immédiatement. Et puis, vous en avez un, curieusement, c'était le père du actuel président. Mais le fils a réparé la chose.
Le papa Bush n'était pas franc-maçon.
Non, il n'était pas franc-maçon.
On le disait 33e.
Non, c'est les seuls qui ne sont pas. Et par contre, vous avez ce fameux billet d'un dollar qui
Ah, bah alors là, celui-là, alors il est beau. Là, c'est les illuminés de Bavière, là. C'est magnifique, c'est Weishaupt.
D'ailleurs, quand on revient, Washington, qui était le premier,
Franc-Mac,
avec Lafayette, Franc-Mac, etc. Et on a fait croire que Louis XVI était d'accord, mais enfin, c'était pas ça. Il voulait simplement prendre sa revanche sur les arpents blancs, etc. Enfin, voyez, on peut discuter très longtemps là-dessus.
Oh là là. Louis XVI. Alors, attendez, donc, non, d'abord, les auditeurs.
Quand j'étais petite, chez les religieuses, on disait que les francs-maçons faisaient tourner les tables et parlaient au diable.
Bah oui.
Depuis quand peut-on dire librement qui appartient à la franc-maçonnerie? Depuis quand quelqu'un peut dire qu'il est franc-maçon?
Bah moi, je peux dire
que je suis franc. Il n'a pas le droit de le dire. Hein, ça, c'est le secret, vous n'avez pas le droit de dévoiler.
C'est interdit. Sauf par des petits attouchements pour se reconnaître entre soi et patati. Enfin, ils se font des mamans.
Oui, alors tout à l'heure, j'avais un client qui m'a fait ce signe, je lui dis, tiens, vous êtes franc-maçon. Et il m'a dit tout de suite, la première question qu'on pose, c'est quel âge avez-vous?
Voilà, la question.
À cela, je devais répondre par une autre phrase que je n'ai bien entendu pas répondu.
Et vous la connaissez, parce que c'est utile, non? On n'a pas le droit, sans quoi alors? Alors le maître me fait des négations. Oui, alors continuons.
Il vous fait à moi les fils de la veuve.
À moi les fils de la veuve. Oui, alors on dit ma petite.
Je suis littéralement consternée, me dit cet auditeur, en entendant le récit qui est fait de la franc-maçonnerie par les intervenants. Qu'est-ce qui différencie la franc-maçonnerie des sectes? J'étais pourtant ancien policier et je savais certaines choses, mais je ne croyais pas que c'était à ce point.
Ah oui, c'est encore pire parce qu'on ne peut pas tout vous dire, parce que là, on ne peut pas du tout dire. Mais un jour, on fera des émissions là-dessus, on ne peut pas tout dire.
Je côtoie des maçons imbéciles et bornés, et j'en suis. Avec tout ce que vous racontez sur leur pouvoir, vous jouez les sergents recruteurs. Oui. Monsieur Amiche, vous donnez beaucoup trop d'importance à ce club qui ressemble plus au Rotary ou au Lions Club.
Ben, le Lions et le Rotary ne sont pas des officines de la franc-maçonnerie, ce ne sont que des viviers. Voilà,
des viviers.
C'est là où on va pêcher les meilleurs.
Voilà.
Vos propos sonnent faux. Vous employez des mots, des termes, des grades qui existent, mais vous ne les mettez pas dans le bon ordre.
En fait, évidemment.
Il n'y a qu'une franc-maçonnerie, celle de la Grande Loge Nationale Française. Les autres ne sont que des groupuscules gauchistes. Sur ce point, vous avez raison.
Je suppose que monsieur est du Grand Orient.
C'est vrai que la ZNLF est reconnue sur un plan international, c'est la seule.
Oui.
Et qui est raccordée d'ailleurs avec la Grande Loge d'Angleterre. C'est vrai que c'est pas ça.
Oui.
Question pratique. À quel ordre les chèques pour les livres de Monsieur Méry?
À GOF. G-O-F.
Non, non. Brucadet. Écoutez, comme c'est un sujet qui m'intéresse, il suffit de faire à la liberté d'expression.
Alors, liberté d'expression, voilà. Donc on rappelle que c'est 33 Champs-Élysées.
Voilà.
33 Champs-Élysées.
Voilà.
Paris 8e.
Voilà.
Et si vous n'avez pas pris tous les prix, etc., vous envoyez une petite enveloppe avec un timbre en disant j'aimerais recevoir votre catalogue, vos
propositions. Vous téléphonez. On donne tout de suite le renseignement.
01 42 25 0303.
Voilà.
À la bataille de Valmy, le général Dumouriez, côté français, ainsi que le duc de Brunswick, côté prussien, étaient tous les deux francs-maçons de la même obédience.
C'est vrai.
On peut se demander pourquoi les Prussiens se sont retirés sans combattre alors qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, 60 000 contre 40 000 côté français.
Oui, c'est une bonne question. C'est une question intelligente d'un auditeur facétieux.
Qui a été résolue d'ailleurs dans un numéro de Fidélis, non pas la revue de telle que j'ai l'honneur de la diriger.
La
revue Mère, vers 1990, un historien vrai, avait dit la bataille de Valmy, trois petits points, n'a pas eu lieu.
Enfin, oui, trois petits points. Voilà.
C'est très bien.
Voilà, c'est tout ma petite Victoria.
J'ai demandé l'ordre des chèques et j'ai vu en kiosque un magazine intitulé Prince d'ici et d'ailleurs.
D'Europe et d'ailleurs, oui.
Pouvez-vous nous dire ce que vaut ce livre?
Ah ben c'est pas un livre, d'abord c'est une revue, donc bon. Je sais pas moi, les gens l'achètent.
C'est notre temps de nous retourner peut-être.
Voilà, ils se laissent, ils l'achètent et puis ils voient, j'en peux pas, moi je peux pas dire des choses comme ça, qu'on n'a pas, l'éditeur est pas là, donc... Voilà, Yves-Marie Adeline, vous voulez faire un petit commentaire encore de cette nature subtile et enfin bien de chez nous, quoi,
ça va,
de bon esprit français. Oui. Pas d'autres commentaires.
Non, ça va très bien.
Voilà. Donc je rappelle que on peut également trouver dans les kiosques Liberté d'expression. Le numéro 1 est paru 20 francs. Alors les Intouchables, il semble que faites allusion.
Oui, vous avez pas ouvert. Vous savez le nouveau maître qui d'ailleurs à la suite, vous savez, c'est intéressant parce que lui-même dit il faut changer le serment. Vous voyez donc notre action n'est pas nulle. Puisque il y a 3 ans, personne n'osait en parler. Puis maintenant, on en parle. Et ce sujet est repris par pas mal de journaux tels que l'Express, le Nouvel Observateur et le Point. Donc, c'est un sujet. Mais par contre, on ne demande jamais à Bernard Méry ce qu'il en pense. Enfin bon.
Ah ben, ce soir, on vous demande.
Oui.
Voilà, on vous demande. Et puis alors, Monsieur Adeline vous a invité à venir vous exprimer également dans les colonnes de son mensuel.
Il y a quand même Fidélis. Plus sympa. Moi, je viens de découvrir ça, page 98. Ce sont les annonces,
payantes.
Payantes, non, c'est sympa.
Voilà.
Bon, alors, cette annonce-là disparaîtra pour le prochain numéro, mais au début, il fallait bien un peu d'argent pour payer le papier.
Moi, je suis pas contre. Mais parce que lui, il est un peu.
Liberté d'expression.
Voilà.
C'est son côté bégueule.
J'ai cet enfant, il a bien fallu que je l'efface, hein. Donc,
c'est peut-être des maçons, hein.
Ah ben c'est peut-être des maçons.
Voilà, comme les mouches. Alors très bien, merci beaucoup mon cher maître. J'espère que vous n'avez pas trop été secoué par l'ambiance dans ce studio. C'est toujours un peu spécial ici.
Je crains un peu les retombées, mais bon, je vous dirai.
Ben ça, moi aussi je les crains, si vous voulez. On va faire très attention ce soir en montant l'escalier.
De toute manière, on sait rien, vous nous avez rien dit.
De toute façon,
vous ne dites rien après.
Voilà,
hein.
Et de toute façon, je me désolidarise totalement de ce que vous avez dit. Moi j'ai beaucoup de respect pour les francs-maçons, comme chacun.
Je précise à l'intention de l'auditorat que Daniel Amiche est actuellement en train de faire un signe un peu cabalistique que personne ne comprend au-dessus de sa tête.
C'était pour simplement pour dire que nous étions sur Radio Courtoisie, parce qu'il faut s'identifier, là on est à une minute près, donc c'est
ça que ça signifie.
La radio libre du PRL et de la francophonie. Voilà. Très bien, merci mon cher maître. Si vous voulez rester encore un petit peu avec nous, c'est avec plaisir, parce que maintenant on va passer à un autre sujet avec...
Non, je voulais juste...
Maurice Liverneau, vous vouliez dire quelque chose. Alors je rappelle aux auditeurs qui prennent l'émission en route que vous êtes un des membres fondateurs de la revue Balkan Info, que vous allez être interrogé par notre ami Michel Blanzac, qui est journaliste et un collaborateur très proche du Libre Journal de la France Courtoise.
Mais il est également collaborateur épisodique de Balkan Info, puisqu'il nous a donné une étude très documentée sur la Bulgarie dans un numéro récent. Je voulais poser une question à Maître Méry. C'est possible.
Oui,
puisque avant qu'il parte, comme vous disiez, Maître, que l'appartenance à la maçonnerie est secrète. Comment arrive-t-on à savoir que tous ces gens dont vous parlez sont maçons?
Alors, ça, c'est le grand problème. Je dois dire que c'est un peu grâce d'abord à... D'abord, vous avez des gens qui ont l'honnêteté de le dire et le reconnaître, qui en sont fiers. Je vous citerai quand même un nom, parce que c'est un garçon...
Ah non, plus de nom.
Non.
Non, là, on arrête les noms. Non, on arrête. Parce que là, déjà, ça fait ting-ting-ting-ting-ting. On sent les 100 000 francs, là, qui tombent.
Non, mais c'est... Enfin, disons que c'est un avocat qui l'accepte. Mais comment on le sait? Eh bien, on le sait, par exemple, une liste était parue il y a 2 ans dans le Nouvel Observateur. En plus, il y a des recherches qui se font. Et puis, petit à petit, si vous voulez, on met quand même des gens à la sortie des temples. Des photos sont prises. Oui, c'est du travail de recherche, mais c'est du travail de recherche de policiers. Donc, on sait ça, mais c'est très difficile. Eux font tout pour bien garder le secret. Oui. C'est une chasse. Une chasse, non pas la sorcière, pas encore, mais c'est une chasse.
Merci.
Voilà, Victoria, rien, hein, n'est pas de si, encore des petits messages.
On a eu des listes aussi dans
Coston. On les aura aussi.
Coston.
Oui, il y a des listes, bien sûr. Bien sûr. Pierre, bon, enfin, oui. Bon, quand même, on a beaucoup.
Mais enfin, c'est les anciens.
Voilà, vous avez encore un.
Dans une autre émission de Radio Courtoisie, on a affirmé que seul Reagan n'était pas franc-maçon parmi les présidents des USA.
Non, je pense que je ne sais pas. Enfin, c'est l'un des deux. Hein, c'est soit Reagan, soit Papa Bush. Mais
attendez. Voilà. C'est quand même pas le meilleur, hein, on peut dire, intellectuellement.
Parlez bien en face du
c'est, micro. Oui, sinon je ne pense pas qu'il aurait été élu. Hein, il faut voir les choses en face. C'est pas le...
Michel Blanza, je vous donne la parole.
Bon, en multicarte. Hein, pour
en
le...
multicarte, oui, pour le Libre Journal de la France Courtoise.
Abonnez-vous, réabonnez-vous au Libre
Journal
de la France
Courtoise. Oui, ben vous faites ça très bien, là, n'hésitez pas. Là.
C'est tout à fait...
4 places France Plus.
Absolument. Oh. De Serge de Beketch, qui est la partie écrite et tout à fait différente du Libre Journal du mercredi soir où Serge de Beketch officie habituellement.
Oui. Enfin, habituellement,
que vous lisez,
normalement, oui, que je lis, mais que j'écoute.
Que
mais
vous
là,
lisez,
bon,
que vous écoutez. Et aussi à Info Balkan qui est...
Balkan Info, pardon.
Qui... Ce sont deux journaux indépendants. Pourquoi on va, à mon avis, essayer de parler régulièrement de Balkan Info avec le Libre Journal de la France Courtoise, parce que c'est un peu ils ont le même problème, et ils ont aussi le problème des réseaux. C'est-à-dire que pour faire passer une information libre, il faut réussir à créer ce qu'on appelait une synergie. C'est-à-dire parler les uns des autres.
Oui, voilà.
Savoir que on n'a pas toute l'information, on a un morceau d'information chacun, et qu'il vaut mieux mettre bout à bout chacun son savoir. Et alors Balkan Info est très spécialisé, si on peut dire. C'est un journal qui s'occupe particulièrement de.
C'est un journal qui, par son nom, sous-entend que nous abordions les problèmes dans tous les États qui constituent les Balkans, mais il est vrai que, bon, vous avez fait quelque chose sur la Bulgarie, on essaie d'avoir des prestations sur les pays des Balkans autres que la Yougoslavie, Serbie, Monténégro, mais il est vrai que notre journal a été fondé en fonction des problèmes qui touchaient l'ex-ancienne Yougoslavie, et que c'est quand même le pivot de notre publication. Mais on est ouvert à toute prestation touchant la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie. Bien évidemment, il faut préciser que si des auditeurs sont intéressés par nous envoyer quelque chose, que c'est bénévole. Hein. On n'est pas capable, et on n'a pas les moyens de payer
un article. C'est le point commun que l'on a tous, et on le sait très bien, c'est que l'on fait ça parce que l'on y croit, pour des raisons toujours honnêtes. C'est-à-dire qu'on essaye réellement de faire passer des messages face à l'information, on va dire, stipendiée.
Ah oui, elle est stipendiée au sens étymologique, c'est-à-dire qu'elle est payée, quoi.
Oui, voilà. Directement. Vous rappelez de l'aventure de Serge Julie, par exemple, comment ça s'est soldé
moi,
au sortir de la guerre du Kosovo, on a découvert qu'il avait des stock options.
Ah, c'est intéressant.
C'est intéressant.
Il a dû en parler beaucoup avec...
Elle est stipendiée et elle est mensongère.
Il a dû en parler avec Philippe Alexandre.
Oui, avec Philippe Alexandre.
Tu sais, moi, j'aime bien les débats comme ça. La télévision, c'est très très bien. Madame Ockrent est réunie, et Serge Julie et Philippe Alexandre. C'est quand même génial.
Parfois, elle fait Bernard Kouchner aussi.
Et Bernard, c'est normal, c'est son époux. Mais moi, j'aime bien... Enfin, bon, d'accord. Moi, j'aime bien ça, parce que ça, au moins, j'aime bien les débats qui sont, vous voyez, où on est sûr qu'on est tranquille.
Entre soi.
Et bien
vous
justement, devez, nous sommes des
vous
perturbateurs.
Vous devez donner les référents, je crois.
De Balcon Info.
Oui, oui.
C'est-à-dire le boîte postale 391 75 869 Paris Cedex 18. Boîte postale 391 75 869 Paris Cedex 18. Si vous souhaitez avoir une information libre sur un problème qui est quand même essentiel pour l'Europe. C'est-à-dire ce qui se passe là-bas. La guerre n'est pas finie, hein, contrairement à ce qu'on vous raconte. Elle continue, elle est même amplifiée d'une certaine manière. Elle est amplifiée sous sa forme économique. Elle est amplifiée aussi sous la forme, bon, on pourrait le dire, de franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie joue un rôle là-bas aussi, parce que c'est une manière d'organiser les choses. Alors, c'est pas la dominante de l'information que vous trouverez dans Balkan Info, mais c'est une information intelligente. Et absolument indispensable, parce que ce qui se passe dans les Balkans aujourd'hui, j'ai passé quand même une trentaine d'articles dans le libre journal de Serge de Beketch là-dessus, c'est certain, c'est ce qui nous arrive dans très très peu de temps en France, c'est d'ailleurs déjà largement en œuvre, le morcellement, la Corse, tout ça. Comprenez ce qui s'est passé là-bas, c'est tout à fait important.
Oui,
il y a un livre. Je change de sujet rapidement.
Vous pouvez peut-être juste avant donner aussi le téléphone, parce que il suffit de téléphoner, nous envoyons un spécimen.
Oui, tout à fait, au 01 42 54 25 01. Voilà. Vous aurez un spécimen d'un
numéro récent.
Une petite question, ça existe depuis quand, Balkan?
C'est un mensuel et qui existe depuis 1995. Mm-hmm. Bon, je crois que lorsqu'il aura parlé, je ferai un bref rappel.
Ah ben allez-y, oui, alors voilà. Allez-y.
Non, mais avant, je crois qu'il veut parler.
Mais c'est tout. On est venu pour parler de particulièrement d'un livre, mais je vais parler d'un autre livre, hein, un autre livre, parce que il est sorti. Il s'appelle Uranium appauvri, la guerre invisible. C'est dans la ligne directe de ce que dit le général Gallois à ce micro. C'est des choses essentielles. Le livre est paru chez Robert Laffont. Je ne connais pas du tout les auteurs. Ce sont des journalistes belges, français, américains, Messonnier, Lourd et Trailing, qui nous apprennent par exemple que pour la guerre du Golfe, l'uranium appauvri, il y a eu 626 628 soldats américains qui ont servi pendant la guerre du Golfe entre le 2 août 90 et le 31 juillet 91, à la guerre du Golfe. Pour faire court, on va dire, il y a eu 183 629 demandes d'indemnisation de gens qui ont été touchés par les suites de l'uranium appauvri dans la guerre du Golfe, des soldats américains. C'est de dire que les guerres que l'on a à subir ne sont pas du tout les guerres que l'on nous raconte. La guerre zéro mort, par exemple. Il y a eu 9600 morts parmi les soldats américains dans cette guerre du Golfe. Il y en a eu en Bosnie aussi, il y en a eu au Kosovo. L'essentiel du problème que l'on a tous ici, c'est essayer d'obtenir une information libre par rapport à des choses sérieuses, qui ne sont pas des choses uniquement de rigolade, mais des choses vraiment importantes qui nous engagent pour très longtemps, parce que qui décident de l'appauvrissement ou de la richesse de pays entiers, de nations entières, de peuples. Pour ceux qui croient encore au peuple, il n'y en a plus beaucoup apparemment, mais il n'y a pas à désespérer non plus, parce que face à l'obstacle, face à l'épreuve, les gens peuvent se réveiller encore, et les uns et les autres, dans des coins divers, ont pris conscience de certaines choses. Alors vous avez des réseaux qui vous permettent d'apprendre certaines choses, Internet, vous pouvez trouver des gens intelligents qui diffusent de l'information, il y a les journaux, il n'y a pas grand-chose d'un point de vue de radio ou de télévision, il y a au moins cette radio-là. Il s'agit de bien écouter, d'apprendre, c'était tout à fait essentiel, et de lire encore et toujours, parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre, et c'est pour cela que, après-demain, au Centre culturel yougoslave, on va parler particulièrement d'un livre qui s'appelle « Agneau noir et fond congruit » de Rebecca West, une auteure anglaise décédée, qui est un grand livre sur l'ancienne Yougoslavie, c'est-à-dire les peuples des Balkans maintenant oubliés, dont on n'a pas voulu savoir qu'ils existaient réellement, qu'on a voulu bombarder sauvagement sous l'impulsion de médias qui n'étaient pas des médias libres, mais qui étaient des médias aux ordres d'intérêts bien particuliers. Alors, il est très important aujourd'hui d'essayer de comprendre à partir de littérature existante, déjà ancienne, parce que ce livre a 50 ans, ce que sont ces peuples, ce qu'ils sont toujours, malgré tout, et avec Vladimir Dimitrievitch, avec Komnen Besirovitch, Avec Seban Despot, avec vous-même, Maurice Hiberneau, moi-même, on va parler de ce livre extrêmement important, qui est la preuve de quelque chose que l'on connaît peu en France. C'est une ouverture d'esprit particulière. C'est les auteurs anglo-saxons qui savent, quand ils le veulent bien, ils ont toujours des originaux, découvrir les peuples. Il y a eu Lawrence d'Arabie, dont on sait beaucoup de choses peu plaisantes, mais qui a été un grand auteur, auquel fait référence le dos de couverture de ce livre publié aux éditions L'Âge d'Homme, Aigne Noir et Faucon Gris. Il y a aussi Rebecca West, qui est un grand auteur, qui parle de peuples d'Europe. Et Maurice Hiberneau, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire à ce sujet, parce ce livre est un livre formidable. C'est un livre de 800 pages. Ça ne devrait pas être un obstacle parce que ça se lit extrêmement facilement.
C'est un livre très long dont d'ailleurs à un certain moment elle en parle et elle dit ce livre si long que sans doute peu de personnes ne le liront. Alors c'est vrai qu'il a 50 ans mais il a été traduit justement de l'anglais vers le français tout récemment. Mm-hmm. Alors avant de parler du livre...
S'il avait été traduit auparavant, peut-être on aurait eu beaucoup plus de difficultés à faire passer autant de mensonges qu'on en a fait passer en France sur les peuples de l'ancienne Yougoslavie. Maintenant on peut dire l'ancienne Yougoslavie.
On peut dire l'ex-ancienne Yougoslavie puisque la Yougoslavie subsiste dans la Fédération yougoslave actuelle Serbie-Monténégro, du moins tant que le Monténégro n'aura pas fait lui aussi sécession. Alors je voulais faire un bref rappel pour dire que moi je suis un des trop rares Français qui en 1991 se sont trouvés tout à fait troublés, choqués par l'engouement excessif et inattendu que la classe médiatico-politique a eu pour les séparatistes slovènes et croates. Engouement qui, comme vous le savez, a confiné au délire lorsqu'il s'est agi des musulmans de Bosnie et ensuite des Albanais
du Kosovo.
Séparatistes terroristes islamistes. Je crois que c'est l'expression qui est la plus précise. Alors évidemment, dans le langage médiatique, on dit kosovar. Alors kosovar, c'est un raccourci extrêmement perfide et pervers. Ce n'est ni du serbe ni de l'albanais. Mais par ce mot kosovar, on veut parler justement des albanais séparatistes, terroristes et islamistes. Et on oublie complètement qu'il y a une partie importante de la population albanaise qui était loyaliste, qui d'ailleurs était présente à la conférence de Rambouillet, puisque l'avant-veille, je crois, de la conférence, la délégation yougoslave a donné une conférence de presse au centre culturel où nous serons après-demain, et deux associations représentaient, outre les Gorani, les Tziganes, etc., les Albanais loyalistes. Alors donc, moi, je me suis ouvert de ça. À l'époque, j'étudiais le serbo-croate aux langues orientales. Je me suis ouvert de mon étonnement à d'autres gens qui se sont trouvés être dans les mêmes dispositions que moi. Donc, j'étais pas seul. On a commencé à former un petit groupe de réflexion. On a publié un petit bulletin. Et puis ensuite, on a fait connaissance d'autres gens ailleurs qui étaient dans les mêmes dispositions que nous. On a commencé à faire un groupe assez compact à partir de 93. Nous avons connu notre célèbre général Gallois, bon, qui est pour nous un ami et un maître. Et ici, tout le monde connaît ses prestations le lundi.
C'est la pensée structurelle.
On a ensuite fait la connaissance d'un grand ami qui est Vladimir Volkov. Et puis en 95, justement grâce au directeur fondateur de Balkan Info, la possibilité est apparue de faire un journal. Et on s'est lancé dans cette aventure avec effectivement très peu de moyens. Et puis, ma foi, on a maintenant quelques milliers d'abonnés, ce qui nous permet de survivre. On va être présent au Salon du Livre, où nous avons un stand depuis quelques années. Voilà. Alors, comme vous le disiez, bon, tout ça, c'est extrêmement bénévole. Et ce qu'on a voulu faire dès que la possibilité s'est présentée de constituer un organe, c'est faire un contre-discours, un contre-message et dénoncer tous les mensonges, les approximations, les bêtises, tout ce qu'on a pu raconter depuis 91. Voilà. Parce que il faut dire que pourquoi les médias se sont engouffrés dans les séparatismes, c'est parce que le président Mitterrand et son ministre des Affaires étrangères, dont nous parlions tout à l'heure, Roland Dumas, ont capitulé fin décembre 91 devant le chancelier Kohl et son ministre des Affaires étrangères Genscher, qui a rallié, à l'époque l'Union européenne était composée de 12 pays, et qui a rallié dans la nuit du 16 au 17 décembre les 12 pays récalcitrants, rallié à reconnaître la Slovénie et la Croatie comme États indépendants, alors que tout le monde savait que en Croatie, il y avait une communauté serbe autochtone qui était là pour des raisons historiques depuis 3 siècles, de 700 000 membres qui avaient été génocidés entre 41 et 45, et que cette communauté ne pouvait absolument pas accepter de quitter la Yougoslavie et d'être intégrée dans un État dont elle avait tout à craindre. Et elle, effectivement, il y avait tout à craindre pour elle, puisque le séparatisme croate s'est manifesté comme une réédition de l'oustachisme, qui était la forme croate du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc Mitterrand et Dumas, les autres, pour ce qui nous concerne, ont accepté que la Croatie soit reconnue dans ces conditions et livraient donc les Serbes de Croatie, ceux de Krajina et ceux de Slavonie, à la vindicte des milices croates qui, je le répète, se sont constituées sur la base de l'oustachisme. On a beaucoup de documentation là-dessus, on peut répondre à toutes les objections. Alors voilà, donc, on a fondé ce journal, et puis on essaie chaque mois d'apporter des nouvelles originales, des nouvelles qui paraissent nulle part ailleurs. Alors on traite de l'actualité, mais on traite aussi des faits historiques. Nous avons une rubrique dans laquelle nous passons en revue tous les ouvrages qui parlent du problème yougoslave. Nous parlons des films qui en traitent aussi. Voilà.
L'avantage, je vous arrête une petite seconde, parce qu'il y a des messages d'auditeurs qui sont arrivés.
Bien sûr.
Et il faut en tenir compte. Il nous reste encore quelques minutes pour cette partie.
Alors,
oui, je vous en prie, Victoria.
Je vous préviens, la désinformation serbe-bolchevique, ça suffit. Balkan des infos est un organe de propagande serbe-bolchevique. Monsieur Adeline devrait savoir que l'on ne lutte pas contre des mensonges par d'autres mensonges.
Mais qu'est-ce que je viens à faire là, moi?
Rien, pas rien, mais c'est comme ça, quoi. Quelqu'un a pris la mouche, je ne sais pas qui c'est. Donc,
attendez,
moi,
j'y suis pour rien. Non, moi,
je suis témoin que monsieur Adeline n'est vraiment pour rien.
Je n'ai rien dit. D'abord, à l'époque des problèmes entre les Serbes et les Croates, dans le légitimiste, j'avais fait part de mon appui des Croates. Je suis désolé de le dire à ceux qui veulent les dire.
C'est tout à fait possible.
Donc, je vois vraiment pas pourquoi on me mêle aux Serbes. Cependant, je n'ai jamais non plus accepté ce jeu de mots, qui est le jeu de mots de quelqu'un que j'aime bien, mais enfin, serbe-bolchevique, je n'y crois pas.
Non, ça veut rien dire. C'est Finkielkraut qui a inventé ça, donc.
Ah bon, je ne pensais pas que c'était lui. Mais non, moi, Jakovlin Hrvatsko-Serbski, je parle croate au serbe, et non pas serbe ou croate. Non, c'est une blague. Non, mais il y a ça, moi, je suis sûr, ça peut être qui est éduqué à la faculté, tout petit,
c'est pour ça. Est-ce vraiment gênant? À partir du moment où on parle des peuples, tout ça, ça ne devrait pas avoir lieu
d'être. Non, moi, je veux vraiment
le
pas.
Le problème, c'est de savoir qui actionne quoi et pourquoi on dresse les gens les uns contre les autres.
Non, mais je veux dire, pour moi, la Yougoslavie était un
c'était, état, oui, un montage qui n'a
c'est
pas.
C'est un montage de 1918 que je désapprouve. Par conséquent, je n'avais aucune raison d'être pour les Serbes contre les Croates.
Non, mais
au contraire, j'ai été pour les Croates contre les Serbes. Cependant,
les autres ont été victimes de quelque chose qui est passé largement.
Non, ce que je veux dire, c'est que je désavoue aussi la désinformation qui s'est faite à l'égard des Serbes à propos du Kosovo, qui est une province indiscutablement serbe, et je suis tout à fait hostile à l'agression de l'OTAN contre la Serbie. Mais dans
ce sont des épisodes différents.
Ce sont des épisodes différents. Donc,
dans une longue décomposition programmée par d'autres.
Voilà, selon les circonstances, j'ai pu être êtes du côté croate dans les années 90, et aujourd'hui, effectivement, je défends plutôt les Serbes contre l'OTAN.
Le problème, malheureusement, par rapport au peuple de la région, mais ça concerne aussi ceux qui n'étaient pas en guerre, je me suis beaucoup occupé des Bulgares, c'est qu'on sait très très bien dresser les peuples les uns contre les autres et les pousser à des choses en effet atroces. On a parlé dans les premières guerres balkaniques des atrocités bulgares. Il y a eu un génocide des Serbes fait par les Croates pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des plus que des bêtises organisées par les Miloseviciens ou autres. Mais le problème, c'est qui lance tout cela, et les questions sont rarement posées dans l'énervement que l'on entretient auprès des uns et des autres. Et le problème, c'est que les peuples en souffrent, et les peuples, c'est-à-dire les gens qui sont la dame du coin qui va chercher son pain le matin et qui ne revient pas parce qu'elle s'est trouvée avec une rafale de mitrailleuse. C'est pour ça que justement on essaye de rappeler le livre qui parle des peuples et qui est quelque chose d'essentiel, qui est une chose de culture qu'on essaye de préserver de tous les peuples de l'ancienne Yougoslavie. C'est pas une mauvaise chose que le centre culturel yougoslave s'en occupe. Ça serait bien que tout le monde voit l'intérêt de ce qui a composé les peuples d'Europe, et espérer aussi que les Français se rappellent qu'ils ont eu une culture très riche, régionale, nationale aussi. C'est tout l'intérêt de ce que l'on a à dire actuellement. Après, on n'aura plus beaucoup de temps.
Oui, moi j'encourage vivement...
Oui, allez-y.
J'encourage vivement à la lecture de ce livre. Alors, cette dame, Rebecca West, a visité donc la Yougoslavie en 1937, c'est-à-dire après la mort à Marseille du roi Alexandre. Elle a visité la Yougoslavie pendant très longtemps, d'ouest en est, et elle a été évidemment guidée, elle a fait un voyage dans des conditions très privilégiées. Elle a été guidée par un intellectuel juif de Serbie, qu'elle appelle Constantin, qui était à l'époque un haut fonctionnaire du gouvernement royal, et qui l'a donc chaperonné tout au long de son voyage, qui parlait très bien l'anglais. Elle, apparemment, d'après ce qu'elle dit, se débrouillait un petit peu en serbe. Voilà. Alors, on a l'impression qu'elle a fait un périple extrêmement privilégié, et que partout elle sait, quand elle le répercute par son écriture, transfigurer tous les événements auxquels elle a pu participer. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble que j'ai lu coup sur coup l'enlèvement de notre cher Vladimir Volkov et ce livre-là. Et bien sûr, Volkov, c'est une admirable fiction. Là, c'est un récit de voyage. Mais il y a quelque chose dans les deux qui me semble commun, c'est que il me semble que ce sont des auteurs qui prolongent un petit peu la grande littérature du 19e siècle, où les romanciers étaient également historiens, sociologues,
se documentaient.
Voilà.
Et elle, une compréhension humaine aussi.
Elle joue tout ce rôle-là, c'est-à-dire qu'elle... Elle narre tout ce qu'elle voit, les choses auxquelles dont elle est témoin, mais en même temps, elle fait incessamment des rappels sur l'histoire des peuples yougoslaves. Elle parle beaucoup de l'architecture, elle parle de la religion. Alors, comme il y a...
Elle parle de la religion en général.
Et des religions. Oui,
non, parce que la source, l'origine, c'est le 6e siècle, mais après, bon, il y a l'influence byzantine d'un côté, puis turque.
C'est un livre qui pourrait être dans Terre humaine, dans la collection Terre humaine, d'une certaine manière. Vous savez, la collection d'ethnologie.
Et puis de l'autre, la culture
spirituelle,
qui dépendait de Venise.
Au sujet d'ailleurs des musulmans de Bosnie, elle émet l'hypothèse que les musulmans de Bosnie seraient des Bogomiles après la conquête ottomane se seraient ralliés à l'islam par crainte des persécutions qu'ils auraient pu subir de la part de l'orthodoxie.
Moi, je crois. Enfin, c'est possible.
C'est une hypothèse.
En tout cas, ce qu'on a constaté dans l'histoire, c'est que tous les monophysites, tous ceux qui étaient trinitaires, ont été radicalement convertis.
Assimilés à l'islam.
Et très vite, parce que ça ne leur posait pas du tout de problème. Ouais, hein. Donc les bogomiles étaient aussi des monophysites. Ils sont passés à l'hérésie islamiste, sans problème.
Alors, ce qu'il y a aussi de passionnant dans son livre, c'est que, bien sûr, on refait toute l'histoire. Ça veut dire que si vous n'avez jamais entendu parler des dynasties serbes médiévales et des dynasties serbes du 19e et 20e siècle, c'est-à-dire les Obrenović et les Karadžić qui se sont succédés, elle nous donne vraiment tous les détails, notamment tout à l'heure dans le métro en venant ici, je relisais au hasard le passage où elle décrit l'assassinat en 1903 du dernier Obrenović Alexandre et de sa femme Draga. C'est un véritable mélodrame shakespearien. Elle avait dû beaucoup lire, elle était très très documentée sur tout ça, et pour tout ce, moi je connaissais bien sûr l'existence de ces dynasties, mais elle apporte beaucoup de précisions. Et
l'intérêt, c'est qu'elle absorbait réellement toute la culture des pays. Oui. Et
alors elle n'a pas
sans prendre le moindre côté polémique ou mauvais.
Oui.
Parce que maintenant, malheureusement, presque tous les livres qui sont parus sur le sujet récemment sont des livres qui défendent des thèses dans un combat.
Oui.
Et c'est très très difficile quand on veut essayer d'y voir clair, et c'est très important d'y voir clair parce que ça nous concerne de plus en plus, on est emmené dans quelque chose qu'on ne comprend pas, d'essayer de trouver quelque chose, non pas de dépassionnée, parce qu'elle est passionnée, mais quelque chose d'honnête.
Elle essaie, oui c'est vrai, mais par ailleurs, il y a beaucoup de choses dans son livre qui sont prémonitoires.
Ah oui, c'est quelque
chose. Par exemple, elle dénonce aussi l'incurie de l'Occident. Et ça, on le retrouve depuis quelques années, chaque fois que l'Occident a voulu se mêler des affaires balkaniques, notamment au moment du traité de San Stefano et du traité de Berlin en 76 et 78, où les Occidentaux se sont complètement trompés. Au moment aussi des guerres balkaniques, celle de 1912, à l'issue de laquelle le Kosovo a été réintégré à la Serbie, les Occidentaux aussi ont voulu s'insérer évidemment dans ces guerres balkaniques qui marquaient l'effondrement de l'Empire ottoman, et ils n'ont fait que des sottises. Hein. Bon, et on a retrouvé ça depuis 92 avec l'intervention des diplomaties occidentales, françaises, allemandes, britanniques, le groupe de contact, ensuite les Américains, et tout ça, ça nous a mené à cette agression barbare qui n'a pas de nom, qui est inqualifiable, hein, contre un petit pays qui n'avait agressé personne, qui essayait de résoudre une sédition locale, comme beaucoup de pays de l'Union européenne l'ont fait ou continuent à le faire, sans qu'on aille les bombarder. On ne bombarde pas l'Espagne parce qu'elle essaie de réprimer le terrorisme basque, ni la Grande-Bretagne quand elle agit en Irlande du Nord, etc.
Alors donc, il faut malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à fin, il reste une minute et demie. Alors je voulais simplement dire, on avait reçu une télécopie, puisque Yves-Marie Hélène avait été tout à l'heure impliqué dans le débat qu'avaient nos amis Michel Blanc et Maurice Liverneau. Alors l'auditeur vous présente ses excuses.
Ah, c'est très aimable.
Parce qu'il était emporté par l'indignation, ce qui est tout à fait possible. Mais m'arrive aussi d'être emporté par l'indignation. C'est parce qu'il vous a confondu avec moi. Moi, je reçois deux invités, Michel Blanzin et Maurice Liverneau, pour parler d'un thème. Il m'est arrivé ici de recevoir des Croates qui étaient vraiment pas du tout pro-serbes, avec beaucoup de bonheur. Je pense que c'est extrêmement intéressant pour les auditeurs d'avoir différents points de vue.
Ah, moi, je souhaite
essayer de se former une information. Donc, j'aimerais bien que qualifie de croatophile ou de serbo-bolchevique ou je sais pas quoi, parce que d'abord ça m'indiffère totalement.
Faut pas mettre de passion.
Et voilà, il faut mettre pas, relativement peu de passion dedans, puis bon, mais je comprends l'indignation de l'auditeur.
Ces gens-là sont pas de chez nous.
Voilà, il y a pas de problème. Alors voilà, donc je rappelle que Michel Blanza, journaliste
du Libre Journal
de la France courtoise, de Bekech, 4 places Franz Liszt, Paris.
Très bien.
10e.
75-010.
Place Franz Liszt, Paris 10e. Recevait donc Maurice Liverneau, qui est un des fondateurs de Balkan Info, dont on va redonner l'adresse.
Ah bien.
Ou le téléphone, ça suffit.
Les deux, l'adresse et le téléphone, oui.
L'adresse est une boîte postale. Alors c'est boîte postale 391, 75-869, Paris CEDEX 18.
Alors donnez le téléphone, ça va être plus simple.
01-42-54-25-01.
J'ai pas bien compris, redites-le encore.
01-42-54-25-01.
Merci Michel Blanza.
Je vous en prie, Daniel.
Merci Maurice Liverneau.
Nous invitons...
Alors la manifestation, c'est...
C'est vendredi.
Vendredi, quelle heure?
C'est vers 19h.
19h30.
C'est au centre culturel du Goslav qui est en face le palais Beaubourg.
D'accord. Donc vendredi prochain.
Rue Saint-Martin.
Rue Saint-Martin. Donc centre culturel du Goslav.
C'est ça. Donc nous allons de nouveau parler de ce livre qui nous semble essentiel.
On en reparlera. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour parler un peu des KPC. On va parler de Louis XI.
Ah bah.